Monsieur Philippe Aigrin, donc Philippe Aigrin qui est en train d'achever la fondation d'une société sur les systèmes d'aide au débat public et qui est ancien directeur à la Commission européenne, va nous faire une présentation du contexte juridique autour des biens communs informationnels.
Oui, bonjour. J'ai jamais été directeur, mais cette présentation gomme juste une petite parenthèse, c'est ce que je fais en ce moment, et en ce moment je suis conseiller scientifique au sein de l'IRCAM, qui est un laboratoire de recherche et de création musicale, et c'est aussi un lieu qui est traversé d'intenses débats et d'intenses divisions sur les questions de propriété intellectuelle et de biens communs autour de la musique, comme vous en doutez. Néanmoins, je pense que les organisateurs m'ont invité à parler aujourd'hui, c'est au titre de ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire de passer 7 ans à m'occuper de politique de recherche dans le secteur du logiciel, mais aussi à ce titre d'être l'interface de la Direction Générale Société de l'Information avec toute l'élaboration réglementaire en matière de propriété intellectuelle qui se fait au sein de la Direction Générale Marché Intérieur de la Commission Européenne. Alors c'était une interface assez difficile, ne me jugez pas sur les résultats, ou plus exactement, prenez en compte qu'ils auraient pu être pires. Et puis le futur c'est effectivement que je vais créer dans quelques semaines une société qui va s'occuper à la fois de logiciels libres et de services d'aide à l'organisation de débats publics sur Internet, mais qui va aussi s'occuper d'appropriation critique des médias et en particulier des médias audiovisuels par les citoyens, de réception critique de la télévision et à un moindre type de la radio, parce que je crois qu'il y a un fort besoin social en la matière. Alors, je vous ai distribué, enfin, ou essayé de faire circuler quelques transparents. C'est essentiellement pour que vous puissiez avoir sous les yeux, même si c'est écrit très petit, un tableau qui est sur le deuxième d'entre eux, qui est un tableau synoptique de ce qui s'est passé avec ce qu'on a coutume d'appeler la propriété intellectuelle et dont je rappelle toujours que ce n'est qu'une forme particulière d'un ensemble plus vaste qui sont les droits pour la sphère intellectuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans les 50 dernières années, nous avons connu une immense extension à la fois du domaine de la propriété intellectuelle, de l'intensité de sa mise en œuvre, de la durée des droits qui y sont attachés, de la forme des rapports entre la mise en œuvre et les techniques qui en servent de support, des mesures d'exécution au sens juridique et des types de contrats. Alors, si vous me le permettez, je vais suivre pas à pas chacune des cases de ce tableau. Beaucoup d'entre elles vous paraîtront un petit peu loin du sujet d'aujourd'hui qui est attaché essentiellement à des questions liées aux droits d'auteur dans la société de l'information. Mais il y a, je crois, une utilité à restituer un espèce de contexte plus vaste dans lequel tous ces changements ont pris place. D'une part, extension du domaine des objets appropriables, des objets ou des entités appropriables. Alors évidemment, ça s'est passé principalement à travers l'extension de la brevetabilité. Je l'ai retracé en 4 étapes, hein, les molécules, les variétés animales et végétales, les séquences génétiques et les séquences partielles génétiques, puis les logiciels, algorithmes, structures de données et tout ce qui peut être approprié à travers l'appropriation des logiciels qui en servent de support. Par exemple, les méthodes thérapeutiques, qui sont non appropriables en tant que méthode, mais appropriables à partir du moment où un logiciel viendrait à en servir de support et où on accepterait que les principes de ce logiciel soient appropriables sous forme de brevet. Vous êtes peut-être surpris de voir apparaître des choses comme les molécules. Le débat sur la brevetabilité des molécules a commencé en 1840, et vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les biens communs informationnels, de parler de quelque chose qui est 1840? Eh bien, figurez-vous que justement, 1840, c'est un moment clé pour l'apparition des techniques de l'information et de la modélisation informationnelle. Qu'est-ce qui se passe en 1840? En 1839, la France fait don au monde du brevet sur la photographie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une époque où on faisait des choses différentes avec les brevets de ce qu'on fait aujourd'hui. En parallèle avec ça, Ada Lovelace et Charles Babbage écrivent les mémoires et définissent les projets de machines qui constituent la première vision de ce que pourraient être des ordinateurs au sens moderne, même si cette vision ne s'est pas réalisée techniquement à cette époque. Elle traduit le fait qu'on commence à pouvoir penser la séparation de la manipulation de l'information et son support physique. Mais les molécules elles-mêmes, pourquoi Bayer en Allemagne à l'époque commence à faire une action pour demander qu'on protège non plus seulement les procédés de production de molécules chimiques, mais les molécules elles-mêmes, c'est parce qu'apparaît cette idée que finalement la formule de la molécule, la représentation informationnelle même de la molécule, la connaissance de ce que cette molécule fait, c'est quelque chose qui il y aurait un immense avantage, en particulier pour un acteur qui dispose déjà d'une position dominante sur un marché, à pouvoir approprier. Et cette même tendance va se continuer avec des phénomènes comme l'appropriation progressive des variétés animales et végétales qui démarre environ en 1930 aux États-Unis. Bon, mais évidemment, c'est ces étapes récentes qui nous intéressent. Ne croyez surtout pas que l'extension du domaine des objets qui peuvent faire l'objet d'appropriation, ce soit limité au cas des brevets. Vous avez des extensions qui sont peut-être un peu anecdotiques, mais en tout cas symptomatiques, du droit sur l'image entendue, non pas droit sur une image en tant qu'objet, image, mais droit sur ce qui est représenté sur une image. Donc il y avait des états préexistants, comme par exemple la propriété reconnue dans certains pays aux architectes sur des représentations de leurs œuvres, mais qui a connu une extension considérable à l'époque récente. Vous avez également, dans le domaine européen, la reconnaissance d'une appropriation possible des bases de données, sans doute la production des dispositifs réglementaires de propriété intellectuelle la plus critiquée de toutes, parce qu'elle est rejetée aujourd'hui, y compris par les acteurs industriels qui l'avaient initialement demandé. Vous avez également des phénomènes qui sont dans le futur, si nous ne parvenons pas à l'écarter, comme l'appropriation par les diffuseurs de contenu, par les casters au sens anglo-saxon, qu'il s'agisse des diffuseurs par les réseaux radiodiffusés, télédiffusés, ou des diffuseurs à travers la transmission sur Internet, avec un traité en cours d'études au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et qui prévoit non seulement l'appropriation, mais l'obligation que toute la chaîne capable de manipuler les contenus diffusés inclut des éléments pour vérifier que les règles d'accès définies par les diffuseurs, y compris, je le précise, lorsque les contenus diffusés ne tombent pas sur le coup du droit d'auteur, ce qui est le cas pour certains d'entre eux, parce que par exemple aux États-Unis les news échappent complètement au droit d'auteur. Ça c'est pour l'extension du domaine. En parallèle, vous avez l'extension de la durée, ce que Lawrence Lessig appelle le Perpetual Mickey Mouse Extension Act, mais qui ne peut pas être considéré comme un phénomène américain, puisque c'est en réalité des acteurs européens et en particulier français qui ont joué un rôle clé dans l'extension de cette durée de la protection du droit d'auteur à 30 ans, puis 50 ans, puis 70 ans après la mort du dernier auteur impliqué dans une œuvre, sans compter les années de guerre. Et là, nous avons affaire à un cas qui est très intéressant, parce que bien que l'absence totale de toute connexion entre cette extension et un argumentaire possible sur la rémunération équitable des créateurs, hein, puisque c'est quelque chose qui n'a d'effet que sur la rémunération des producteurs et des héritiers, malgré ça, ça n'a pas empêché les acteurs publics d'être des vecteurs puissants. La France s'est battue à l'échelon européen pour obtenir l'extension de 50 ans à 70 ans. Aujourd'hui, la situation s'est un peu retournée, ce sont les Américains qui aujourd'hui demandent l'extension, par exemple pour les phonogrammes de 50 ans à 70 ans et pour le reste de 70 à 100 ans, et nous verrons à quoi ça tient. D'autre part, en dehors de la durée, il y a les mécanismes de mise en œuvre des droits de propriété se sont profondément révolutionnés là avec l'arrivée dans l'ère des techniques numériques. C'est là, je crois, un peu le secret d'un début de réponse à la question que posait Mélanie Clément-Fontaine. C'est que, si vous voulez, dans la sphère des biens physiques, si vous considérez un livre, il y a une inséparabilité entre le principe d'accès à l'objet, la transaction qui vous fait en devenir le propriétaire, et l'acte de transaction monétaire, le paiement qui est attaché à ça. Alors dans la sphère numérique ou informationnelle, ces deux choses deviennent séparables. On peut accéder sans que ça donne lieu à paiement, parce que le coût de cet accès est très, très faible, contrairement au coût de l'objet physique livre. Par contre, et évidemment, on peut ou il faut bien que quelqu'un paye pour, ou quelques mécanismes payent. Maintenant, la grande question qui va se poser, c'est faut-il que ces deux choses restent intimement liées ? C'est-à-dire, faut-il que le paiement soit mis en œuvre à travers le mécanisme du contrôle d'accès ? Malheureusement, sans que nous ayons eu le débat suffisant, à mon avis, sur l'impact de cette décision, les textes, et en particulier les textes européens qui sont l'occasion de notre réunion d'aujourd'hui, ont tranché en instituant une protection légale pour les mesures techniques, en rendant leur contournement illicite avec des mesures relativement extrêmes, et en encadrant assez sévèrement, mais quoique de façon très ambiguë, les exceptions d'interopérabilité dont parlait Tariq. Il y a un grand domaine d'interprétation, et c'est la tâche des parlementaires de trouver le meilleur choix à l'intérieur de cet espace d'interprétation des dispositions de la directive, mais néanmoins on peut dire qu'on a temporairement en tout cas tranché en faveur d'instituer dans le cadre juridique un primat à la mise en œuvre du contrôle d'accès comme moyen fondamental d'obtenir le paiement. Quel est le résultat? J'y reviendrai. Eh bien, c'est le résultat, c'est que on incrimine 80% de notre jeunesse et une grande part de notre industrie culturelle réelle comme effet de bord de cette décision qui, encore une fois, certains de ces acteurs étaient évidemment extrêmement intéressés, mais beaucoup ont agi simplement parce qu'il n'y avait pas eu un débat suffisamment profond. Dans le même mouvement, on a effectué une réinterprétation restrictive des droits d'usage. Des droits comme celui à la critique, à la parodie, à la citation, à l'usage pour l'enseignement, à l'usage pour la recherche, à un moindre degré des droits d'accès pour les handicapés, les droits du domaine public, les droits du dépôt légal, ont tous été implicitement ou explicitement interprétées de façon restrictive. Symboliquement d'abord par l'usage systématique de l'appellation exception à travers une philosophie juridique que je connais mais qui ne doit pas nous abuser. Le droit emploie des mots, ça n'est pas une raison pour que ces mots ne fassent pas eux-mêmes l'objet d'un débat. Donc on a interprété restrictivement cela en laissant ouverte la porte néanmoins dans la transposition au fait que les États choisissent pour leur propre cas, d'interpréter plus largement en piochant dans un catalogue élargi d'exceptions, ce qu'à ma connaissance, mes successeurs en diront plus, la proposition de loi française n'a pas choisi de faire. Mais plus encore, on a accepté que la technique dise le droit. Et là, je voudrais vraiment insister sur ce point, parce que se passe-t-il lorsque nous avons la possibilité de photocopier un livre, hein? Je parle sous l'autorité tutélaire de François Gèze. Qu'est-ce qui se passe? Les gens achètent des livres et ils peuvent les photocopier. Rien ne les en empêche. Et puis, ma foi, ça peut donner lieu à un abus personnel, ça peut donner lieu à un abus social, se crée un débat. Si quelqu'un se met à photocopier des livres et à les vendre, peut-être l'ayant droit fera un procès et le juge décidera s'il y a eu abus. Donc c'est le juge qui dira la loi et c'est l'usager qui décide dans son comportement de s'y conformer ou non. Et l'on passe à une autre situation dans laquelle on va demander à la technique de servir de support, de codage au droit de l'usager. Alors que va faire le détenteur de droit? Mettez-vous dans la peau de n'importe quel créateur de n'importe quoi. D'abord, c'est pas lui qui va répondre. C'est l'avocat de son producteur. Et que va dire l'avocat de son producteur? Il va dire « Ah, mais bien sûr, le maximum de précautions. » Et d'ailleurs, il fera que son travail. Il devrait y avoir un directeur du marketing ailleurs qui fait le sien pour lui dire « Mais peut-être qu'avec le maximum de précautions, t'en vendras pas une. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aboutir au livre électronique qui vous dit « Ah non, la citation, c'est pas deux pages, c'est huit lignes maximum. Hein. » Alors que, donc on va passer d'une situation où on laissait le droit et le débat social décider de ce qui était légitime, à une situation où nous allons laisser la technique le faire. Et un effet de bord de ça, c'est que on redéfinit. Alors, je vous invite, si vous voulez lire des travaux merveilleux de juristes là-dessus. Moi, je suis pas du tout juriste, mais j'ai appris à apprécier quelques juristes. Julie Cohen de Georgetown University a vraiment fait sur ce sujet particulier des relations entre le droit et la technique des travaux remarquables. Ensuite, un effet de bord. Et je vais y revenir, c'est que la propriété intellectuelle est redéfinie comme droit absolu et non plus comme compromis d'intérêt général. Alors il y a des gens, elle a été tellement redéfinie qu'il y a des gens qui vous diront qu'en France et en Europe, elle n'a jamais été définie comme compromis d'intérêt général. Eh bien c'est faux, hein. Je vous assure, lisez les travaux d'une historienne comme Anne Latournerie et vous verrez qu'elle a bel et bien été définie comme compromis. Il n'y a pas que la Constitution des États-Unis, c'était aussi le cas dans le droit français, c'était aussi le cas dans le droit anglais, c'était aussi le cas dans le droit allemand. Il y avait bel et bien une idée que ça fait l'objet d'une négociation sociale, à vrai dire comme tout droit de propriété légitimement doit en faire l'objet. Ensuite, nous passons aux mesures d'exécution et aux contrats. Alors là, ce sont des textes qui relevaient jusqu'à peu de la jurisprudence, des compétences exclusives des États, mais avec la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle, et à vrai dire avec les mesures horizontales de l'accord ATPIC, on commence à définir tout un immense et extrêmement brutal corpus de procédures et de sanctions civiles et pénales beaucoup plus sévères qu'autrefois. En parallèle, on définit des injonctions, une responsabilité ou même une incrimination pour les fournisseurs de moyens, qu'il s'agisse des fournisseurs de services ou qu'il s'agisse des fournisseurs de logiciels servant à commettre de potentielles violations de droits de propriété, même lorsque la motivation première du développement de ces logiciels, comme dans le cas de Jon Johansen, le jeune développeur norvégien qui passe aujourd'hui et depuis hier en cour d'appel à Oslo, la motivation essentielle n'était pas une motivation de violation du droit de propriété intellectuelle. Et enfin, dans toute une sphère dont on ne parle jamais dans le cadre juridique, qui est la sphère des licences et des contrats, on accepte clauses de contrats beaucoup plus restrictives en matière de droits d'usager, avec une protection beaucoup plus faible des consommateurs et des usagers. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voudrais simplement maintenant, je vous ai mis tout ce tableau pour comprendre que vous faire comprendre que c'est un bout du monde qui a été conduit comme un train lancé à grande vitesse sur des rails, mais qui aujourd'hui est entré littéralement en collision à la fois avec des exigences sociales et éthiques et avec le développement des techniques. Et je crois que c'est important de retracer comment on est arrivé à cette situation. Si l'on part de 1945, il y a eu toute une première période, elle a duré 25-30 ans, qui a été la période de l'émergence silencieuse des biens communs informationnels. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, toute l'algorithmique telle que nous la connaissons aujourd'hui a été produite dans le domaine public, en partie par des acteurs de la recherche publique comme Donald Knuth, mais en grande partie aussi par des acteurs industriels qui échangeaient extrêmement librement leurs idées, parce qu'ils étaient dans une époque où ils disaient, c'était l'époque où le dirigeant d'IBM disait, il y a peut-être un marché pour 10 ordinateurs, il pouvait y avoir une façon de faire des ordinateurs qui disaient qu'il y avait un marché pour 100 au lieu de 10, ça valait le coup d'échanger des idées entre concurrents. Et c'est accumulé, pas seulement dans le domaine des logiciels, mais aussi dans des domaines comme après la découverte du rôle de l'ADN en 1953, les 20 années qui suivent sont une époque d'accumulation extraordinaire de données de domaine public, et là, sur le génome humain et ses fonctions, et il a fallu que quelqu'un comme James Watson, l'un des détenteurs du prix Nobel pour cette découverte, démissionnant du projet génome humain américain pour protester contre l'appropriation par les brevets des données génétiques, pour nous rappeler les gens qui ont fait exister ça dans la sphère scientifique et technique, pour eux c'était naturel de le partager. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme étape suivante, c'est une contre-révolution qui coïncide plus ou moins avec l'apparition de nouvelles formes d'industrie et avec la prise de conscience des conséquences économiques de la révolution informationnelle. Alors, cette révolution, elle a une dimension économique et industrielle, et puis elle a une dimension idéologique et politique. Et je crois qu'il faut considérer les deux en association pour bien comprendre sa nature. La dimension industrielle, c'est que au 19e siècle, un industriel comme Solvay découvre un nouveau procédé de production de la soude qui fait que le coût de production de la soude est deux tiers de ce qu'il était avant. il va breveter évidemment ce procédé. Ça va lui suffire pour conquérir très rapidement une domination mondiale sur la production de la soude. Et quel va être le prix de la soude? Eh bien, il va être quelque part entre les deux tiers et entre les coûts que lui permet ce coût de production et les coûts qui étaient ceux de ses concurrents. Autrement dit, ce que nous avons à l'époque, c'est une industrie de la production des biens ou de la fourniture de services, mais dont les prix sont encore couplés au coût de production. C'est-à-dire la propriété intellectuelle protège une industrie des biens et des services. Or, qu'est-ce qui se passe, et en premier dans l'industrie pharmaceutique, dans les années 70, c'est l'apparition d'une industrie qui devient une industrie de la propriété intellectuelle, non plus une industrie protégée par la propriété intellectuelle, mais une industrie de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur de Merck ou de Pfizer, c'est la valeur de ces 5 ou 6 blockbusters qui vendent 3 milliards de dollars de revenus par an, et dans ces revenus, la part du prix expliqué par les brevets est de 90%. Puisque le coût de production des génériques, quand vous démarrez un nouveau générique sur un de ces médicaments, le coût de production c'est 10%. Et si vous travaillez, comme dans le cas des trithérapies pour le sida pendant un moment, le coût va descendre à 1 ou 2%. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des industries découplées de la base matérielle économique, y compris la base humaine dans le cas de la fourniture de services. Ça s'est passé d'abord dans la pharmacie, puis ça s'est passé dans le secteur du logiciel propriétaire dans les années 80, dans le secteur des médias centralisés lorsque ces médias sont arrivés dans le numérique. Et en quoi je vous signale que même ça ne représente qu'une part très faible de l'économie globale. Toute l'industrie des contenus n'a jamais représenté plus de 3% des PNB. Même ces grands acteurs, tous réunis, ne représentent sur le volume global de l'économie qu'une petite part. Donc ne pensez surtout pas que c'est l'industrie qui est devenue ça. Je crois que là, certains des critiques, par exemple, y compris des gens comme Rifkin, nous ont, dans leur souci de dénoncer les abus de ces acteurs, nous ont parfois un peu trompés en nous faisant croire que tout le monde était devenu comme ça. Mais non, heureusement, je vous assure, il y a encore des tas de gens qui vendent des biens et qui vendent des services dans nos sociétés. Malheureusement, on a produit des espèces en danger, et ces espèces en danger sont très puissantes. C'est-à-dire que c'est pas comme dans le biologique, les espèces en danger, en général, elles sont assez fragiles. Mais là, on a produit des gens qui sont immensément riches, très capables d'influencer la décision politique, et qui se vivent comme terriblement en danger, car leur puissance et leur économie ne tient qu'à un fil. Elle ne tient qu'à la protection de monopoles d'État que leur attribue la puissance publique et à tous ces mécanismes de mise en œuvre. Alors, sur la dimension idéologique et politique, il n'est pas nécessaire que j'en parle longtemps, parce que Jean-Claude Guédon a déjà parlé de l'abus de l'article de Gareth Hardin, The Tragedy of the Commons, qui a été réutilisé dans des sphères, même si Hardin était un membre de l'école de Chicago et il avait des présupposés ultralibéraux, néanmoins, son article parlait de problèmes bien réels. Quand vous avez l'eau d'une rivière, des terres de pâturage, et que vous laissez tout le monde les utiliser, elles risquent effectivement de faire un abus s'il y a pression démographique. Mais on a transféré ça à la sphère informationnelle, alors que va dans le sens inverse. Et donc, les deux dimensions de cette doctrine qui s'est développée à un moment donné, c'est l'abus de la notion de tragédie des biens communs, qui a été critiquée plus tard par les défenseurs des biens publics avec la métaphore de la tragédie des enclosures, et la transformation de la propriété intellectuelle en droit absolu. Et alors là, je vais revenir maintenant à l'effort que j'ai fait de formuler un peu d'une nouvelle façon les droits intellectuels pour l'ère des technologies informationnelles. Je me suis donc posé la question de, finalement, oublions très temporairement les formes de détail et disons-nous, mais à quoi ça doit servir tout ça? Pourquoi c'est faire? Et posons-nous la question des droits intellectuels fondamentaux. Alors là, je crois que si vous vous référez d'abord aux grands textes, par exemple la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle est très ambiguë. Parce qu'elle reprend un certain nombre d'articles de toutes les grandes chartes des déclarations des droits de l'homme sur la liberté d'expression dans tous les médias et sur la liberté de non seulement de recevoir mais aussi d'émettre des contenus dans tous les médias. Alors c'est très important, c'est l'article les articles 11.1 et 11.2 de la Convention des droits de l'homme. Mais elle a aussi introduit une clause qui était absente de ces chartes universelles et qui dit la propriété intellectuelle est protégée. C'est une phrase très courte qui a fait néanmoins au sein de la convention qui préparait la charte des droits fondamentaux l'objet d'intenses débats parce qu'en réalité c'est une phrase très surprenante. Alors je sais qu'en disant ça je vous surprends moi-même, comment vous voudriez pas protéger la propriété intellectuelle, mais en réalité si vous regardez les articles de la charte des droits fondamentaux, y compris l'article 17.1 sur le droit de propriété, ils commencent tous par toute personne a le droit de, c'est-à-dire toute personne a le droit de jouir de sa propriété créée ou acquise légalement. Et là, brusquement, on voit arriver un machin qui dit la propriété intellectuelle est protégée. Mais pourquoi donc brusquement cette propriété intellectuelle n'est plus attachée à des personnes? C'est très simple, c'est parce que aujourd'hui les demandeurs de cette formule sont d'immenses groupes. Il y a une phrase d'Hillary Clinton qui dit « On a transformé aujourd'hui le concept de propriété entre quelque chose qui est la condition de vie et d'action des personnes en un objet manipulable pour les grands intérêts, elle dit « money, the large money interest », c'est entre financier et économique, disons. Pourquoi ces choses sont-elles importantes? Bien parce que toute la question que nous avons devant nous, c'est la société de l'information est-elle achevée? Et s'agit-il juste de trouver la bonne forme pour diffuser quelques contenus numériques, finalement, ou est-elle en construction? Moi, je soutiens qu'elle est non seulement en construction, mais à une étape extrêmement immature. Si vous prenez les médias temporels enregistrés, le son, l'image animée, nous sommes dans une situation que, à juste titre, Jean-Claude Guédon a décrit comme celle de l'époque des scribes. Et en fait, nous sommes clairement dans la situation où il y a des scribes qui diraient « Mais si vous apprenez à tout le monde à écrire, notre profession est en danger. » Et c'est vrai. Nous sommes 108 ans. Il se trouve qu'en 1895, c'est à la fois l'invention, il y avait des techniques d'enregistrement avant, mais l'invention du gramophone et l'invention du cinéma. Nous sommes 108 ans après l'invention des médias enregistrés temporels, et il n'y a toujours pas pratiquement un seul document de domaine public. Comment peut-on éduquer les récepteurs de ces documents à en être des récepteurs critiques et à être eux-mêmes créateurs? Nous sommes dans une situation d'illettrisme total pour les médias d'industrie culturelle. Et c'est très paradoxal, parce qu'il y a 80 millions de caméscopes en Europe. Donc c'est pas que les gens n'aient plus, si vous voulez, quand le cinéma c'était un investissement que seul pouvait se payer 10 personnes, on pouvait comprendre une telle situation. Mais aujourd'hui, il y a 80 millions de foyer où on a les instruments pour faire de l'image animée, mais quand on discute de qu'est-ce que c'est le statut pour la vidéo, on l'oublie complètement et on ne pense plus qu'aux 150 broadcasters européens. Donc ce que j'en tire comme conclusion, et je m'arrêterai là, il y a quelques références de textes que je vous invite à lire en addition à celui que j'avais oublié, qui est le texte de Yochai Benkler, Causes Penguin, of Linux and the Nature of the Firm, qui est le meilleur plaidoyer pour la supériorité des biens communs informationnels comme mode social de production. La conclusion donc, que je voudrais vous inviter à envisager, c'est que les usages passés ne peuvent pas définir le plancher des droits. Je suis personnellement un peu apeuré quand je vois que le débat sur la directive copyright dans la société de l'information se focalise sur la copie privée. La copie privée, c'est les usages passés, mais l'usage de demain, c'est tout un chacun prenant le journal télévisé et disant « mais moi je suis pas d'accord avec la présentation de l'information, je voudrais pouvoir produire une critique de ça et la rendre lisible par tout un chacun et exercer mon droit de citation pour prouver que ce que j'avance dans ma critique est réel et pas simplement laissé à l'appréciation de la vague mémoire qu'en ont les gens. » Alors non seulement je pense que c'est un usage plus que légitime, utile à la démocratie, mais je compte développer concrètement les outils et les services pour le rendre possible dans la société que je vais créer, et je compte donc sur vous pour me défendre lorsque je serai attaqué, puisque le droit de citation pour l'audiovisuel n'a jamais été une réalité. Vous ne pouvez pas citer un seul photogramme extrait d'un document d'image animée. Merci de votre attention.
Merci beaucoup Philippe Aigrin pour cette présentation. Bien évidemment, nous t'invitons, c'est évidemment plus au titre du philosophe de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire philosophe que l'on t'invite, et je dirais que c'est presque pour faire venir le chaland qu'on parle de ton rôle d'ancien directeur. Je pense que le travail que tu produis dépasse largement cette dimension. Alors, quelques questions pour Philippe Aigrin?
Vous citez le...
Présente-toi, s'il te plaît.
Jean-Pierre Archambault, du CNBP. Vous citez le chiffre de 3% de l'industrie des contenus dans le PNB. Et c'est vrai que donc là, il peut y avoir des combats d'arrière-garde, mais en même temps, il n'y a pas que l'industrie des contenus qui est concernée. Il y a la recherche, il y a l'éducation, il y a la santé. Donc, en fait, on est dans une situation où ceux qui disent « attention, il faut s'alarmer », ils n'en sont pas à 3% en fait, on n'en est pas à 3%. Et ça me semble être partie intégrante du combat, et ça explique toutes ces tentatives d'élargir la sphère des rapports marchands pour l'éducation, pour les services. Donc je crois que... Alors, et la question que je poserai, c'est si on ajoute santé, éducation, recherche, on est à combien du PNB pour avoir une...
Je pense qu'on est assez proche de la moitié. Et évidemment, la mention de ce petit chiffre n'avait pas pour but de dire que ce n'était pas important. Hein. Je veux dire, ça serait un terrible contresens sur mon propos. Ce que je veux dire, c'est que le couplage avec l'économie monétaire de la production des savoirs et des contenus a toujours été un problème extrêmement difficile. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On a toujours eu de très grandes difficultés à transformer en argent comptant des produits intellectuels, des connaissances, il y a toujours eu une supériorité des modes de financement indirect. Prenez les arts plastiques. Combien il y a de peintres en France qui vivent pas d'être profs aux beaux-arts et, ou de sources annexes de revenus. Hein. Tariq a cité des cas sur la musique. La musique est une immense activité de service. Quand vous recevez la Fédération de l'industrie phonographique, demandez-vous s'ils parlent pour les profs de musique. C'est ça que je voulais souligner, c'est que il y a un continent invisible des statistiques. Hein. Un prof de musique qui donne des cours particuliers, il est dans les services aux personnes dans la comptabilité nationale. Hein. Vous le verrez jamais au titre de la musique. Hein. C'est un cas absolument général de bien comprendre. Même l'activité de concert et qui est pour une grande partie des musiciens une source fondamentale de revenus et qui a un couplage extrêmement positif avec la vente de leurs disques. Hein. Vous avez, je veux dire, moi j'ai acheté une quantité importante de disques dans des concerts. Donc ce que je voulais dire, c'était pas que ces 3% n'étaient pas importants, c'est attention, les mesures monétaires peuvent ne pas traduire la réalité des phénomènes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, peut-être pas.
Boris, oui, au micro.
Présente-toi, pose ta question.
Le problème, c'est que c'est...
Boris Ronet.
Oui, c'est qu'on légifère sur le droit d'auteur qui concerne 50% du PNB en fonction des intérêts et en fait la pression des industries du contenu qui pèsent 3%. Donc c'est ces 3%-là qui déterminent l'évolution du système de propriété intellectuelle qui s'applique à l'ensemble de l'économie. C'est là, je crois que c'est ça le côté, ce qui est frappant dans ce chiffre. Voilà.